Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour, bienvenue sur l'agenda littéraire de Canal Académie. Nous continuons de parcourir l'œuvre d'Éric Faye à travers une approche globale de ses grands thèmes. Nous avions abordé le thème de la disparition. Pour le rappeler en quelques mots, les personnages d'Éric Faye se vivent comme prisonniers d'un monde absurde, le nôtre. Ils sont poursuivis par l'obsession de le fuir, de trouver une sortie de secours et de disparaître. Car le pire serait de se résigner, de subir servilement le climat d'un système qui les étouffe. Mais revenons un instant sur le cas du gardien de phare. La première émission nous l'a montré comme un modèle de résignation, lui. Aucune envie de fuir. Sa sortie de secours, elle est prise en charge par le système qui en organise le simulacre. Ainsi procèdent tous les systèmes. Prenons la tête de ce que nous redoutons. À ce phare, perdu au beau milieu de l'océan, imposons une sortie de secours et justifions-la. Lorsque les bornes sont passées, l'absurdité n'a plus de limite, aurait dit Alphonse Allais. De la même façon, le système avait-il conjuré toute velléité de disparaître chez le gardien de phare en organisant lui-même sa disparition. Sa mise au placard, comme on dit cyniquement dans le monde du travail. Rien de dramatique, c'est de pratique courante lorsque le licenciement pose problème. Et tous les mis au placard ne mettent pas fin à leur jour. Or, visiblement, notre gardien consent de bonne grâce à son isolement, d'un consentement qui s'inscrit dans l'éthique naturelle de l'employé docile. Ce gardien, on le sent parfaitement adapté à l'inutilité de son poste. Et c'est avec un flegme exemplaire qu'il avale toutes les couleuvres administratives. Ce phare, c'est sa vie, sa tour d'ivoire. Si tout était possible, nous dit-il, je bâtirais autour de moi une série de tours gigognes et je rétrécirais pour me lever à l'intérieur de la plus petite. Il rétrécirait. Non seulement adapté à son poste, ce bon gardien, mais adapté à ce monde où chacun attend de l'autre qu'il occupe le moins d'espace possible. Toutefois, dans l'attitude du gardien, un psychologue d'entreprise relèverait certains détails auxquels nous ne prêtons peut-être pas assez attention. Par exemple, l'histoire du gant. Voilà que ce gardien, isolé de tout et de tous, prétend qu'on lui a volé un gant, comme si c'était possible. Et il en fait toute une histoire, comme si c'était important. Nous avons plutôt envie d'en rire. Or, le psychologue d'entreprise nous dirait que nous avons tort. Dans l'intérêt du système, afin d'améliorer le rendement et de prévenir les gestes de désespoir, ces spécialistes ont pour mission de détecter nos souffrances morales. Au-delà de ce gant, dépossédé de son double, l'oreille professionnelle entendrait le tourment du gardien privé d'un alter ego. Et lorsque le gardien lui parlerait d'un autre phare au bord de l'horizon, avec, dans ce phare, une possible gardienne tout aussi esselée, ce fantasme le confirmerait dans son interprétation. L'absurde serait déjà moins risible. Oui, en posant les mots là où ça fait mal, cette histoire de fou, ce gant prétendument dérobé en plein désert de l'océan, cesserait peut-être de nous faire sourire. Du général Solitude à Nagasaki, le rapport à un alter ego est une constante de la thématique. Elle semble dénoncer un manque, une absence, témoigner d'une perte. Le vide qu'elle a laissé, on ne peut le comprendre sans parcourir les étapes de la vie comme on remonte une contre-allée, selon la formule d'Éric Faye. Alors, chacun de nous aurait-il un double quelque part dans ce monde ou dans son passé ? Qui donc nous hante ? Qui a fait de nous son squat ? Énigme à laquelle toute l'œuvre d'Éric Faye semble suspendue. Elle en est le gardien du temple. Elle détient la part la plus cryptée de ses récits, mais interdirait toute question trop directe posée à l'auteur. Nul écrivain ne nous doit une explication de son texte, ni de légender le mystère de ses mots. D'autant qu'Eric Fay semble davantage s'interroger sur lui-même que de détenir quelque intime certitude. Il le fait dire à Solange Briat.
« Mon mystère est de n'avoir rien à cacher, sinon cette part de moi-même dont j'ignore tout et que je souhaiterais explorer. »
Solange est de ces êtres qui, sans amour et sans haine, comme disait le poète, s'explique difficilement leur mal de vivre. Elle peut seulement se définir comme une blessée de la vie.
Depuis mon adolescence, il m'a été donné de connaître des hommes et des femmes de la terre brûlée, qui laissent en plan amours et amitiés pour un mot de trop ou un mot de moins, pour une méprise dérisoire ou parce que, à la bourse des sentiments et des plaisirs, certaines relations se sont dépréciées.
Dans le syndicat des pauvres types, même sortie de route, au même virage, pour le personnage d'Antoine Blin. Je cite « Tout s'annonçait de si bon augure et pourtant, grand blessé de l'adolescence, il n'a jamais réussi à entrer comme il convient dans l'âge adulte. » Une troisième émission pourra se poser la question d'une telle rupture. Mais centrons-nous d'abord sur ce thème du double. Le thème du double est partout présent dans l'œuvre d'Eric Fay. Le mot lui-même ne cesse de revenir avec insistance. Le double des clés, par exemple. Confier ses clés à l'autre, avant de s'absenter, voire de disparaître, c'est un peu l'adoubé comme son double. Ou bien désirer l'être pour celui qui reçoit les clés. Notre chez-nous n'est-il pas un morceau de nous-mêmes? Il y a aussi le double sens des mots. Eric Fay en a fait la découverte dans sa haute enfance. Il a 4 ans lorsque ses parents lui annoncent un prochain départ dans le Midi. L'étincelle initiale va jaillir de ce mot, Midi. Un adulte lui explique, il s'agit de partir vers le sud. Pour l'enfant, c'est le ravissement, la révélation. Et quoi, se dit-il, ce qui est un moment crucial du jour devient lieu, direction. Le temps est convertible en espace. Le mystère du langage vient soudain de lui ouvrir les portes du fantastique, lui révéler que les mots peuvent avoir un double fond. Le double fond, une formule qui va faire fortune dans l'œuvre d'Eric Fay.
Voilà bien ce que je menais depuis la veille, une existence à double fond,
nous confie Solange Briat dans Les cendres de mon avenir. C'est dans le double fond du phare que dorment les archives des gardiens disparus. Dans le double fond d'une valise, avec le linge bien repassé, que les candidats à la disparition cachent leurs faux papiers. C'est toujours dans les doubles fonds que les spectres du passé rêvent de ressurgir au moindre appel du vide. Et c'est encore dans le double fond d'une penderie que la squatteuse de M. Shimura va se dissimuler. Ajoutons ce détail qui ne peut pas être anodin, elle s'occupe à lire une histoire de double. La métaphore va bientôt s'élargir à cette représentation du Japon telle que le voit Eric Fay.
Je devais être fort enclin à des pensées singulières ce soir, car il m'apparaissait que Nagasaki était longtemps resté comme un placard tout au bout du vaste appartement Japon avec ses 4 pièces principales en enfilade, Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Et l'Empire, tout au long de ses 250 ans, avait pour ainsi dire feint d'ignorer qu'un passager clandestin, l'Europe, s'était installé dans cette penderie. Et pourtant, combien de techniques, combien d'idées, combien de savoirs avaient transité dans les deux sens par cette sorte de double fond.
Le langage peut donc vivre une vie parallèle, se proposer à une double lecture. Tel est le secret de toute métaphore. On sait en quelle estime Eric Fay tient Ismaïl Kadaré. Dans l'étude qu'il lui a consacrée, Prométhée porte-feu, il en fait le prince de la métaphore et de la nostalgie. Or, les nouvelles d'Eric Fay sont elles-mêmes tissées de métaphores, une forme d'écriture dont les mots sont difficilement détachables car ils vivent une vie décalée. Ce sont des mots comme vide, fantôme, exil, oubli. Et bien sûr et surtout, ce terme omniprésent, le double. Un personnage d'Eric Faye n'entre pas seul dans sa solitude. Un clandestin l'accompagne, son double. À l'origine, le double est peut-être une créature de la solitude. C'est ce que suggère le gardien du phare lorsqu'il s'en prend à son prochain, qui lui reproche son mutisme, son silence.
Ah, le prochain, ouvre seulement ton bec, prochain, pour voir. Je ne t'aime pas, comme moi-même. Je te vole, j'envie tes biens, ta femme, ton chien, je te mens. Sais-tu, prochain, je te hais comme moi-même, parce que tu restes bouche cousue.
Révolte, colère que tous ces mots, reprise à son compte de ce que le prochain lui inflige, expression d'une souffrance. Où donc est le double, le vrai, cet autre salvateur qui l'en délivrera? Le personnage et son double sont tous deux en vigie. Chacun déploie ses ruses à guetter l'autre, au point qu'ils semblent s'espionner. Quelle chance ont-ils de jamais se rencontrer? Serait-il une seule et même personne en un même lieu qu'il pourrait encore appartenir à des temps différents? Le cas le plus flagrant est celui de Solange Bria. Un personnage ordinaire, mais douloureux, dans un monde qui l'étouffe. Un personnage tel que les façonne Eric Faye. Laissons-la se présenter pour lui donner consistance.
Je m'appelle Solange Bria et je n'ai pas d'ambition. 27 ans, un emploi modeste dans un cabinet d'experts comptables, rive gauche. Ceux qui me connaissent ne s'étonnent pas que je m'en contente. Je m'y rends à pied et m'arrête souvent sur le chemin du retour, au milieu d'un pont tendu vers la rive où j'habite, sous l'œil, la coupe de l'ange de la Bastille. Je me penche régulièrement du haut de certains ponts, rêveuse, voire émue jusqu'aux larmes par la beauté du spectacle, au point qu'un jour, une femme m'a posé la main sur l'épaule et m'a demandé si tout allait bien, si je n'avais pas besoin d'aide. Ma pâleur a dû l'effaroucher. Elle s'en est vite allée, à peine rassurée, avant que j'aie pu lui répondre.
Lorsque Solange Bria rencontre son double, c'est elle-même qu'elle rencontre. Le double, ici, c'est l'autre, l'altérité en moins. Les deux Solanges n'ont, pour ainsi dire, qu'un miroir de différence, mais un miroir qui mettrait 50 ans à renvoyer l'image. Nous sommes dans le fantastique tel que le construit Eric Faye lorsqu'il enjambe la frontière du temps. Quelques remarques à ce sujet. Tout d'abord, quant au cheminement qui nous conduit à cette situation. Un récit à suspense, mais qui jamais ne déroge à la vraisemblance. On y croit. Aucune couture n'est apparente. Seul un détail va soudain attester que le miroir est franchi. Il surgit à l'instant où Solange se brûle des yeux en regardant le mur. Réservons-en la surprise. L'autre Solange lui a donné ce qui nous manque. Ce qu'Eric Faye aime à nommer la mémoire de l'avenir. Elle semble lui dire « Vois, je ne suis plus que tes cendres. » Un montage aussi parfait que déroutant, tel un graphisme des chairs. Et cependant, rien de gratuit. Eric Faye ne cultive pas le fantastique pour le fantastique. Cette confrontation d'un personnage avec lui-même par-delà les années est porteuse de sens. La question n'est pas de savoir s'il y a une vie après la vie, mais plutôt de savoir s'il y a une vie après l'enfance. Là s'inscrit le doute d'Eric Faye. Dès les premières pages des Lumières fossiles, le voisin de Solange Bria nous confie.
Les jours où mon téléphone ne sonne pas, pas même pour une erreur, ces jours où aucun passant ne lève les yeux vers mes fenêtres, moi aussi, je suis Solange Bria.
Entendons par là... C'est comme si j'avais moi-même disparu. Et retenons l'identification à Solange Bria, dont il se sent un peu le double. N'a-t-il pas déjà sa clé? C'est dans un vieux fantasme d'intrusion, le voisin, un écrivain, semble-t-il, un écrivain ou un compositeur. Le voisin, donc, entre dans l'appartement de cette Solange disparue et tire le verrou. Les personnages d'Eric Faye cultivent la hantise d'être surpris lorsqu'ils jouent les intrus. Un jeu d'adrénaline qui les maintient dans un sentiment de transgression.
Enfant, j'ai toujours rêvé de me laisser enfermer de nuit dans un musée et de m'aventurer d'une œuvre à l'autre, guidé par les veilleuses, d'user à ma guise des sarcophages en porphyre et de longer les allées sans autre but que de déjouer les rondes du gardien, le faisceau de sa lampe.
Que la lampe vous surprenne, et ce serait la panique. Il n'y aurait plus qu'à s'éclipser le plus discrètement possible. Fuir le lieu de l'effraction. Tout comme la squatteuse de M. Shimura dans Nagasaki, le voisin de Solange Briat demeure sur le qui-vive lorsqu'il visite le studio de la disparue avec, peut-être, un certain goût de se mettre en danger.
Des phares balaient le studio de loin. Des silhouettes affolées courent sur les cloisons et les meubles, puis sont happées par l'obscurité. Ainsi, dans les moyens-métrages du commandant Cousteau, des caméras surprennent des grottes sous-marines qui n'étaient jamais sorties des ténèbres.
Du studio de Solange Briat, le voisin va bientôt faire son refuge nocturne. C'est, selon lui, un appartement aux mains des ombres. Un lieu où revivre les fantasmes de ses jeunes années.
J'ai toujours aimé, depuis la haute enfance, où ténèbres, fantômes et sorcières régnaient en maître, adopter l'attitude du guetteur. Mettre en alerte toutes mes fonctions de lutte. Rien n'était clair en moi, mais j'entrevoyais par moments ce qu'un instinct me commandait de faire, revenir de nuit, c'est-à-dire la nuit à venir, dans le logis de ma voisine. Qui sait si, de nouveau, des palans n'allaient pas remonter jusqu'à l'étage ?
Il y a, dans le monde d'Eric Faye, une noblesse à disparaître. Qui a ce courage fait des envieux parmi ceux qui restent. Leur inspire parfois une forme de dépit. La garce tira une collègue de Solange Briat en apprenant sa disparition. Au moins ce voisin est-il dépositaire des clés.
J'ai eu la conviction que le trousseau de clés ne m'avait pas été donné pour prendre soin des plantes, mais pour protéger quelque chose de tout autre. Le sanctuaire d'une personne, d'un univers à part, et peut-être aussi de veiller sur l'un de ces postes frontières par lesquels, sans crier gare, on passe de la vie courante à l'antimonde.
Tous les personnages d'Eric Faye aspirent à cet antimonde. Solange Briat y avait laissé son ami Damien, celui qu'elle appelait l'homme à la déesse grise.
Il me disait « Monte, je te raccompagne dans les années 70 » et nous roulions sans bruit. La déesse glissait sur son coussin d'air. J'ignore depuis notre séparation moi combien d'amis je me suis agrippée pour ne pas tomber trop bas dans la solitude, le temps que les secours arrivent et que dans ma tête les vents tournent au sud. J'attendais que reviennent les compagnons en partance comme repassent les oiseaux migrateurs. J'ignore combien m'ont utilisé de la sorte à leur tour, blessés, humiliés. L'ultra-libéralisme qui sévit est plus dur qu'un grand hiver. Les amitiés, les plaisirs et les amours se revendent ou se louent, s'échangent en bourse dès qu'un partenaire n'est plus rentable.
Plus que tout autre personnage, Solange Briat est la voix de son auteur. C'est encore à elle qu'il confie le soin de rendre à Ismaïl Kadaré l'hommage d'un portrait. Ne vient-elle pas de l'entrevoir, à travers une vitre ou sous la menace d'une buée ? Car dans l'univers d'Eric Faye, toute rencontre ne peut être que fugace, marquée d'un voile, d'une précarité.
Maintenant, je ne le voyais plus que de dos, mais les secondes où il avait glissé de l'autre côté du verre m'avaient suffi pour le reconnaître. Ses traits, comme marqués d'engelure, dus à une exposition prolongée à la tyrannie, ses sourcils qui violaient les lois de la pesanteur derrière des lunettes à monture d'écaille, grâce auxquelles il brouillait les siècles, son air préoccupé, cet air de s'être trompé de monde, d'être en communication régulière avec Échille et Dante. Je l'ai vu s'engouffrer à l'intérieur du Rostand, comme s'il avait rendez-vous avec eux deux et s'apercevait qu'il avait des siècles de retard.
Depuis sa disparition, Solange avait mené l'enquête afin de remonter jusqu'à la source de son propre mystère. En découvrant son double, elle avait compris qu'il n'était autre qu'elle-même dans un autre temps. Nous avons déjà évoqué ce moment de littérature fantastique. Au contact de son double, Solange accède à ce qui nous fait défaut. Cet étrange concept, la mémoire de l'avenir. De quoi donner un but à sa disparition ? Elle va se réfugier à la source des lumières fossiles, retrouver le village natal symboliquement évacué, retrouver le grenier où dort le piano de ses premières gammes, ses premières découvertes d'Eric Satie, revenir en ce jardin où elle avait enfoui ses premiers journaux intimes cachés dans une boîte métallique. Dans un livre de fer vêtu, aurait dit Mallarmé, dont les échos ne manquent pas dans l'œuvre d'Éric Faye. Solange piochera en vain. On ne déterre pas si facilement ces jeunes années. Ainsi de tous les vieux adolescents au cimetière de leur enfance. Mais, en mobilisant le merveilleux, l'imaginaire d'Éric Faye lui réserve cependant un miracle, et ce sera l'apothéose de la durée d'une vie sans toi. Le thème du double atteint sans doute sa forme la plus exemplaire avec Solange Brillat, mais il se décline tout au long des récits d'Éric Faye. On le retrouve par exemple dans l'histoire d'Ivan le Janissaire, une fable étrange autant que féroce, autant que subversive. Parmi quelques merveilles comme l'exilé ou les statues d'Aphrodite, elle fait partie du recueil « Un clown s'est échappé du cirque » et s'intitule « Compétitive noyée ». Pour faire court, disons qu'Ivan le Janissaire est un Ivan qui se retrouve du bon côté du manche. Dans un pays qui fut le sien, Ivan s'est enrôlé dans une chasse à l'homme.
Les premières battues furent lancées au bout de quelques journées de préparatifs. Les lieutenants de Louveterie qui dirigeaient les opérations avaient à leur disposition des chiens comme on n'en vit jamais pour aucune chasse. Satellites qui flairaient le moindre corps chaud dans une forêt abyssale, hélicoptères qui enjambaient les crêtes, sautaient d'une clairière à l'autre et coupaient la retraite aux meutes. Ces battues furent d'autant plus fructueuses que la population des campagnes, comprenant qu'il en allait de son avenir, se mobilisait massivement.
C'est à Ivan que revenait l'honneur de faire la part intelligente du sale boulot. De sélectionner les trophées les plus aptes à discréditer les victimes en les montrant sous un jour répugnant. Les mâles uniquement. Montrer une tête de femme risquait d'apitoyer. Ivan met tout son zèle à satisfaire un système qui ne devrait pas manquer de lui être reconnaissant. Or, voici qu'un jour, il reconnaît parmi les victimes le sosie de Nadiejda. Nadiejda, son amour dont la vie s'épanouit quelque part dans New York. Une ressemblance qui le perturbe. Que sait-il de cette morte qui lui ressemble tant ?
Et si cette femme avait d'elle-même répondu à l'appel de la forêt, décidé un beau jour d'abandonner un village, les cadences et les servitudes, l'alcool des misérables, pour aller à la rencontre des hordes ou y suivre qui sait quel amant, peut-être un sosie d'Ivan ? Peut-être un homme au visage d'Ivan était-il étendu un peu plus loin et il frémit à cette idée.
Oui, un autre Ivan, le visage de ce fameux double.
Un alter ego en négatif, un Ivan qui n'aurait pas eu de chance.
Ivan est saisi d'une crainte à l'idée de se retrouver en face de son cadavre.
Soudain, il crut comprendre ce qui les avait poussés, tous, à rejoindre les bandes et à multiplier les proclamations, les invites à la lutte armée. Derrière le rideau d'un idéal, cela tenait peut-être à peu de choses. Avoir eu ou ne pas avoir eu de chance.
Devant cette morte qui ressemble si fort à Nadiejda, il s'interroge.
Et sa voix, avait-elle été aussi belle que celle de Nadiejda ? Elle avait forcément chanté, elle aussi, un jour, crié, pleuré. De tous ces sons, que restait-il ? En avait-on gardé quelque part un enregistrement ? Pourquoi ne conserve-t-on pas un souvenir sonore de chaque individu ? Pensa Ivan en imaginant un cimetière de voix.
Vient toujours le moment où le personnage d'Éric Faye franchit le pas de la transgression, où la révolte littéraire prend le parti de l'homme contre le système, quelle qu'en soit l'idéologie.
Ainsi Ivan fit-il une entorse à la règle, voulant qu'aucune tête de femme ne fût jamais embaumée. L'histoire d'Ivan le Janissaire aurait pu en rester là. Il aurait pu se coucher comme tous les soirs, se lever comme chaque lendemain matin. Mais quelque chose dans la mécanique de cet homme l'avait toujours empêché de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'il déclenchait. Intuitivement, il comprenait peu à peu que son propre sosie n'était ailleurs qu'en lui. Dès lors, il mit un terme aux séances d'inspection des cadavres. Inutile de chercher son double dans les morgues. Yvan portait son cadavre en lui. Son double, il l'avait étouffé, qui sait quand, à son insu.
N'est-ce pas là une réponse à la question posée ? Ici, le double, c'est celui que nous aurions dû rester. Celui que nous étions avant qu'un système ne nous asservisse. De ce jour, Yvan décida de ne plus inspecter les cadavres. Le biologiste Jean-Didier Vincent a une saisissante formule. L'homme est un vivant qui promène avec lui son cadavre. Éric Faye pourrait écrire « L'adulte est un vivant qui promène avec lui le cadavre de son enfance. » Le cadavre de celui qu'il fut, qu'il a étouffé qui sait quand, à son insu. Le cadavre de son double. Les personnages d'Éric Faye sont des écorchés vifs qui, par pudeur, se refusent à saigner. On pourra bien couronner leur auteur, il aura toujours du mal à se faire entendre. Voilà pourquoi nous aimons lire ces mots. Voilà pourquoi cette émission se terminera sur la voix d'un poète qui a peiné à se faire entendre. Il se nommait Jacques de Broncard. Il nous a quittés dans les années 80, il n'y a donc pas si longtemps. Son fantôme est toujours près d'un piano, quelque part dans un cabaret de la rive gauche ou une cave de Montmartre. Mais sa voix nous demeure dans un cimetière de voix où Yvan rêvait de conserver un souvenir sonore de chacun. Écoutons cette voix.
Écoutez, vous ne m'écoutez pas, alors ce n'est que ça la vie, ce fatras, ce brouillamini. Je croyais qu'on répéterait, moi, mais non, on joue directement. Personne ne connaît la pièce, on improvise les mots, les gestes, alors c'est mauvais forcément. Faudrait pouvoir apprendre, non ? Faire 40 ans d'apprentissage, tout ressentir, devenir sage et puis renaître pour de bon. Ça, ça serait bien. Écoutez-moi, vous ne m'écoutez pas. Je vous jure, vous me direz vos aventures après. D'abord, écoutez-moi. D'après vous, est-ce que c'était mieux avant, il y a 3 siècles ou 4, quand on savait vivre et se battre? Quand on n'avait pas tué Dieu. Écoutez, écoutez-moi, écoutez, écoutez-moi, écoutez.
Le prochain agenda littéraire vous proposera une 3e émission sur Éric Faye. Elle pourrait s'intituler « De l'enfance à l'abîme » ou bien encore « La mort de Mozart ».
Est-ce que c'est normal d'avoir peur ? Est-ce qu'ils ont peur aussi, les autres, d'être seuls, d'être pris en faute, de mourir d'un arrêt du cœur ? Les autres, ils sont pourtant tout prêts, on ne peut les toucher. Ils fuient, se dérobent, se réfugient dans leur moi en ciment armé. Les bêtises que j'ai faites enfant, les conneries que j'ai faites adulte, en moi tout ça fait un tumulte. Comment le faire taire ? Comment ? Écoutez, vous ne m'écoutez pas. La tombe de mon père est nue, pas de pierre de la terre battue. Fera-t-on de même pour moi ? Je crie du fond d'un sous-marin dans l'océan des mille peines. Il me reste de l'oxygène, mais pour combien de temps ? Combien ? Écoutez, écoutez-moi, écoutez. Écoutez-moi, écoutez. Vous ne m'écoutez pas. Écoutez, vous ne m'écoutez pas. Sortez de votre carapace, je suis là, en face de vous. Enfin quoi, je ne m'en dis pas. Je ne quête ni pour cela, ni pour ceci. Je veux que vous tourniez la tête. Ce n'est pas bien terrible. Si, ça ne vous prendra qu'un quart d'heure, 10 minutes, peut-être moins. Après, j'écoute vos malheurs toute la nuit, jusqu'au matin. Écoutez, écoutez-moi, écoutez. Écoutez-moi. Écoutez. Vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas.